Chapitre 7. Un dîner. Le complot prend du corps. Patty, accompagnée de son groom, atteignit saine et sauve Bellevue Terrasse, mais sans rencontrer Sir Henry, qui, il faut bien le dire, allongeait le plus possible son congé dans l'espoir d'éviter à tout jamais une semblable rencontre. Patty n'avait heureusement rien des natures vertes et jaunes. Aussi, malgré son désappointement, arriva-t-elle chez son amie avec des joues aussi fraîches que la rose et dans les meilleures dispositions d'esprit. « Bonjour, Miss Mathilda. Bonjour, Miss Louisa, commença-t-elle. Je voudrais bien savoir, Mathilda, ce que vous seriez disposée à me donner en échange des nouvelles les plus agréables que vous ayez entendues de votre vie. Voyons, donneriez-vous votre montre ?»« Que voulez-vous dire, Patty ? » demanda l'ami fortement agitée. « Ne devinez-vous pas un peu ce que je veux dire ? Parlez donc ! Chut, chut, Louisa ! « Bonté divine, Patty, comme vous me torturez, cruelle fille, pour l'amour du ciel, dites-le-moi tout de suite. Foxcroft serait-il attendu en ville ?»« Sur mon honneur et sur ma vie, Mathilda, je n'ai rien entendu de pareil. » Le souvenir même de toutes les splendeurs de Curzon Street ne put réprimer l'indignation de Miss Mathilda Perkins à l'ouïe de ses glaciales paroles. « En vérité, Miss O'Donoghue, s'écria-t-elle, je rendrai grâce au ciel de ne pas vous voir si vous ne venez ici que pour nous tourmenter ainsi avec vos absurdes plaisanteries. Je vous aurais cru d'âge à mieux savoir vous conduire. »« Et moi, répondit Patty en riant, je vous aurais cru plus que d'âge à ne pas vous quereller ainsi avec votre meilleure amie parce qu'elle a voulu s'amuser un peu. Voyons, Mathilda, égayez-vous. C'est vrai comme l'Évangile que je n'ai pas entendu dire que Foxcroft fût attendu, mais je n'ai pas dit qu'il ne fût pas arrivé. Arrivé ! Cria Mathilda de la voix la plus perçante qui fût jamais sortie du sein d'une femme amoureuse. Arrivé, Patty ! Non, ce n'est pas possible. Je ne saurais supporter un tel bonheur. Bien vrai ! Dit Patty en hochant la tête. Alors que Dieu ait pitié de nous, Miss Louisa. Que va-t-elle devenir quand elle saura que je viens vous inviter à dîner pour lundi et que le gentleman dînera aussi avec nous? Qu'en dites-vous, Mathilda?
Ce que j'en dis? Oh, ma Patty adorée! Il me semble que mon cœur va m'étouffer. Me pardonnerez-vous, ma chère, chère chérie? Oh, l'idée de le revoir, de me retrouver auprès de lui! Oh, Foxcroft, Foxcroft!
Ici, la pauvre Mathilda, succombant littéralement sous le poids de ses émotions, se jeta de tout son long sur le sofa, où elle fut prise de mouvements nerveux qui se traduisaient par les coups de pied les plus convulsifs.
« Pauvre cher enfant !» s'écria sa sœur en tirant d'une armoire un flacon d'ammoniaque. « c'est trop pour elle. Respirez cela, ma chère. Attendez que je vous en frotte vos pauvres tempes. »
Et retirant immédiatement le bouchon, elle se mettait à frictionner le front et les tempes de sa sœur. L'efficacité du remède ne se fit pas attendre. Se dressant sur son séant et de là sur ses pieds, avec une force dont la pauvre Louisa ne l'aurait jamais cru capable, la malade s'écria
« Grand Dieu, Louisa, que me faites-vous là? Je vais avoir des marques rouges sur toute la figure et mes yeux vont enfler de façon à me sortir de la tête. » « Pour l'amour de Dieu, emportez cette horrible drogue, je la déteste !»«
Vous feriez bien mieux de ne pas t'en faire fi de ce remède, Mathilda, car si vous vous démenez de cette façon à l'idée de dîner avec le gentleman, je ne sais ce que nous ferons de vous quand je vous aurai raconté les regards, les soupirs, les sous-entendus et les œillades qu'il m'a adressés lorsque j'ai commencé à lui parler de vous. »«
Est-ce vrai, ma chère ?» s'écria Miss Louisa avec un mélange de plaisir et d'étonnement.
Oui, oui, cela doit être vrai, reprit Mathilda comme dans une sorte d'extase.
Je sais bien qu'il m'aime, moi. Je l'ai vu dans chacun de ses traits adorés, ce dernier jour si cruel où nous nous sommes promenés sur la jetée. La pluie tombait à torrents, le vent soufflait, la mer nous couvrait des éclaboussures de ses vagues. Non, jamais je n'oublierai l'expression de sa figure. Chaque goutte qu'il atteignait, et il était trempé, chaque goutte était une torture pour lui, uniquement à cause de moi. Et ici, tirant de dessous le coussin du canapé en mouchoir, qui peut-être avait déjà servi à essuyer des larmes moins douces, la charmante Mathilda le porta à ses yeux. « Oh, chère, chère, ne pleurez pas ainsi !» s'écriait sa tendre sœur, qui semblait toute prête à lui tenir compagnie. « Songez donc, si cela doit se terminer par un mariage !» Et en vérité, Miss O'Donaghue, d'après ce que vous dites, il me semble qu'il y a plus de chance cette fois-ci qu'il n'y en a jamais eu. Je suis bon juge, vous savez. Nous avons eu tant de petites affaires de ce genre. Oh, oh, Miss Louisa, vous dites nous, repartit Patty, qui avait l'air très au courant. Auriez-vous eu aussi votre part? Ah, Dieu, non, pas moi, Miss Patty. Je dis « nous » parce que je me suis toujours énormément intéressée à tout ce qui arrive à Mathilda. Oh non, grâce à Dieu, je n'ai rien eu de pareil dans ma vie. Cela fait tant de mal, les désappointements, et il y a des hommes qui se conduisent si mal. Eh bien, je veux être pendue si je crois que Foscroft se conduira mal, répliqua Patty. Mais Mathilda, venez donc un moment à la fenêtre que je vous parle un peu de moi. « Figurez-vous que ce matin, papa et maman se sont mis après moi comme de vrais tigres parce qu'ils trouvent que Jack n'est pas assez empressé. Vous vous rappelez bien que je vous ai dit qu'il m'avait embrassé sur le vaisseau en me disant adieu ? Eh bien, ma chère, il a recommencé ici, dans notre dernière entrevue. Qu'est-ce que mes parents veulent de plus ? Et ne pensez-vous pas que je puisse croire en lui ?» « Indubitablement, ma bien chère fille, mais les personnes âgées sont toujours méfiantes. Voyez ma sœur, je suis parfaitement sûre qu'elle m'a fait manquer mariage sur mariage. Mais grâce à vous, ma chérie, cette fois j'ai dans l'idée que nous nous y prendrons mieux. Cher, cher Foscroft, mon cœur grille de voler vers lui. Comment est-il, Patty? Est-il toujours aussi grand, toujours aussi élégant ? Oh, vous savez, Mathilda, quant à la beauté, je n'en ai jamais trouvé beaucoup en lui. Mais pour la taille, oui, bien réellement, il est tout aussi grand qu'auparavant. Il n'y a que son nez. Je l'ai trouvé monstrueusement gros. Que voulez-vous, Patty? L'amour est l'amour. Je vous jure sur l'honneur que Foscroft me semble un des plus beaux hommes que j'ai jamais vus. Fort bien, ma chère, c'est pour le mieux. Maintenant, il faut que je m'en aille. Attendez un instant, Patty, et dites-moi ce que je dois mettre lundi. Qu'en pensez-vous? Dois-je me coiffer en bandeau ou en papillote? Je ne vois pas que cela fasse une bien grande différence, Mathilda. Cependant, peut-être, les bandeaux feraient-ils mieux. Vous avez si peu de cheveux, vous savez, et les miens sont si épais que je craindrais pour vous la comparaison. Oh, en les secondant avec quelques fleurs, je n'aimerais pas du tout avoir une crinière comme la vôtre, ma chère. À moins pourtant qu'elle ne frisât aussi merveilleusement, dit Miss Mathilda, se corrigeant elle-même. Et sur cette amende honorable, les deux amies, se retrouvant dans les termes aussi tendres au départ qu'à l'arrivée, se séparèrent parfaitement disposées à déployer le lundi suivant toutes les grâces inhérentes au sexe féminin. Ce lundi, jour fertile en événements, devait apporter de la joie à plus d'un cœur, car M. O'Donaghue, étant retourné ce jour-là même au club de Sir Henry Seymour pour avoir de ses nouvelles, avait, plus heureux que les fois précédentes, rencontré le jeune homme juste à la porte du club. Le plaisir que le plus âgé des deux gentlemen avait ressenti de cette rencontre ne doit pas être mis entièrement sur le compte de son affection paternelle. Il se méfiait de la manière dont sa fille interprétait les sentiments du jeune homme, mais l'idée de faire un whist à la même table que lui le réjouissait presque autant que de lui voir faire la cour à Patty. Aussi, prêtant à son accueil toute la séduction dont il était capable et prenant le plus grand soin d'éviter la moindre allusion à leurs connaissances nautiques, se hasarda-t-il, avec toutes les formes du meilleur monde, à prier Sir Henry de venir dîner chez lui le soir même. Monsieur O'Donaghue vit tout de suite que le jeune homme hésitait et, détournant habilement la conversation, il se mit à déplorer l'absence prolongée du général Hubert et de sa famille, montrant en même temps une joie très vive à l'espoir de les voir revenir. Puis, après ses frais d'éloquence, il revint à son premier sujet par ces mots. « Ainsi donc, mon cher Sir Henry, vous dînez avec nous ce soir. Vous faites volontiers un Robert, n'est-il pas vrai ? C'est la mode parmi la jeunesse d'aujourd'hui. Eh bien, je vous en promets un. » Or, Sir Henry Seymour, quoique fort jeune, jouait très bien au whist et raffolait de ce jeu. Sa grande fortune le lui permettant, il s'inquiétait peu du taux de l'affiche. La pensée lui vint qu'un homme qui joue ne peut faire l'amour et que si Miss Patty voulait le laisser un peu tranquille, il ne serait pas fâché, lui, de rester en bon terme avec M. O'Donaghue, croyant ainsi avoir moins à craindre de le voir trahir son secret auprès du général Hubert et, par conséquent, auprès de son tuteur, Sir Edward Stephenson. Sous l'empire de ces considérations, il se décida à accepter. La vérité est qu'une table de jeu avait pour lui des attraits irrésistibles. Patty, entendant son Jack prononcer ces paroles « Voulez-vous m'épouser ?», n'eût pas ressenti une joie plus vive que M. O'Donaghue en voyant son souhait s'accomplir. Mais il était bien trop bon diplomate pour laisser voir son impression et, prenant l'air le plus indifférent du monde, il approuva d'un mouvement de tête en ajoutant « À 6 heures, donc !» Le premier soin de M. O'Donaghue fut de s'assurer d'un quatrième à sa convenance. Il y réussit à son entière satisfaction. Il déterra un de ces individus au teint bronzé, au nez aquilin, à l'air railleur, qui, à force de propreté et d'élégance dans leur tenue, passent souvent, aux yeux qui n'ont pas le don de savoir lire sur les physionomies, pour de véritables gentlemen. Quelle était la position, quelles étaient les ressources de M. Armondyle? Personne n'en savait rien. Tout ce qu'on savait de lui, c'est que c'était un célibataire, ne détestant pas de temps à autre un Robert sérieux, aimant beaucoup à être invité à dîner, là où il y avait des coques de bruyère à manger, et faisant partie des clubs les mieux fréquentés. Avec ce gentleman, le nombre des convives de M. O'Donaghue arriva au chiffre de 8, 4 dames et 4 messieurs, ce qui amena Miss Louisa Perkins à dire que de sa vie, elle n'avait vu un dîner si bien combiné. Nous n'avons pas besoin de nous étendre sur les mérites de ce festin. Mistress O'Donaghue avait fait de son mieux et lorsqu'après avoir quitté la table avec la plus belle partie de ses invités, elle envoya prévenir les messieurs que le café était servi, malgré l'excellence des vins, fort prisés par Foscroft, les gentlemen se rendirent immédiatement au salon. Bien que Patty eût été placée à table auprès de son Jack adoré, elle était de ceux pour qui la fête avait eu le moins d'attrait. Car tout en étant gai et même aimable avec elle, le jeune homme avait eu aussi peu l'air de lui faire la cour que si elle avait eu 60 ans et lui 80. M. O'Donaghue avait vu cela aussi bien que sa fille et s'était immédiatement juré que la table à jeu le vengerait de l'endurcissement du cœur du jeune baronnet. Miss Louisa, qu'aucune passion d'aucun genre ne troublait, avait souri, mangé et ressouri encore. M. Armondyle n'avait eu qu'une pensée, soigner sa noble personne. Et comme Mistress O'Donaghue ne pouvait s'empêcher de croire qu'il était un personnage important, elle l'avait accablé de prévenances pour lesquelles la plus belle récompense qu'elle eût jamais pu obtenir n'avait pas dépassé un mouvement de tête. Mais, naturellement, et comme on devait bien s'y attendre, c'était entre Miss Matilda Perkins, Foscroft et la troupe de grâces et de petits amours rougissants qui se jouaient entre eux que s'était formé le groupe le plus animé. La toilette faite par Miss Matilda à l'occasion de ce jour de resaugure avait été véritablement l'œuvre de l'amour. Et l'on comprendra suffisamment à quel point elle était réussie lorsqu'on saura que, pendant le moment où les deux sœurs attendaient un fiacre, Miss Louisa s'était écriée en regardant sa sœur « Charmante en vérité !» Et par le fait, l'effet obtenu fut tout ce que pouvait souhaiter la douce Matilda. Les paroles et les actions de M. Foscroft prouvèrent jusqu'à l'évidence que lui aussi l'avait trouvée charmante. Obligé, bien contre son gré, d'obéir aux injonctions de son patron en l'endroit de la table de jeu, il avait mis à profit tous les instants que celle-ci lui avait laissés, et non, certainement, jamais les plus grands saints n'envoyèrent aux 52 éléments pervers qui composent cette abomination des abominations nommée un jeu de cartes autant de malédictions que ne leur envoya la triste Matilda quand elle se vit abandonnée sur une causeuse où elle était assise, parce que de cet endroit, elle avait la vue la plus complète de la tournure et de la physionomie qu'elle adorait. Pauvre femme, quel est le cœur féminin qui n'aurait pas sympathisé avec elle en pareille circonstance? À 36 ans, avoir un amoureux, et un amoureux tout près de devenir un prétendu déclaré, le voir assis dans le même salon que soi et placé dans des conditions telles qu'il lui est absolument impossible d'adresser un seul mot à l'élu de son choix, et de plus, ô disgrâce, le plaisir de le contempler ne lui fut même pas accordé, car M. O'Donaghue, ayant grand-peur que le paiement de son dîner ne fût compromis par quelque distraction de son partenaire, pria sans cérémonie le beau sexe de la réunion de vouloir bien se retirer dans un autre salon. Les pauvres exilés se groupèrent alors en deux tête-à-tête. Entre Miss Perkins et Mistress O'Donaghue, l'entretien roula sur les plus minutieux détails concernant la grandeur présente et future de cette dernière, tandis que dans l'autre, les plus jeunes de ces dames se redirent à l'envi les rhapsodies de leurs amours respectifs. À tout prendre, les fruits portés par cette soirée furent plus complets que ceux obtenus d'ordinaire d'une chose dont on attendait beaucoup. Et lorsque Sir Henry Seymour eut déposé sur la table 56 livres sterling en déclarant qu'il avait fait un délicieux revers, M. O'Donaghue, se consolant de l'attitude si peu amoureuse qu'il lui avait vu prendre auprès de sa fille, en habile tacticien, se mit à dire et à redire que Patty n'était encore vraiment qu'une enfant sans conséquence. Puis, voyant qu'il avait réussi à mettre le jeune gentilhomme parfaitement à l'aise à cet égard, il profita de l'occasion pour s'étendre à plaisir sur l'affection toute particulière dont Madame la Générale Hubert et Miss Elizabeth honoraient la jeune fillette. Tandis que la droit maître de maison débitait toute cette tirade, un observateur un peu fin n'eût pu voir sans sourire l'expression de naïf étonnement qui se peignait sur la figure du jeune baronnet. « Elle est pourtant terriblement commune, pensait-il. Oui, mais elle est si bonne fille !» Et c'est ainsi qu'il s'expliquait l'indulgence de Madame et de Mademoiselle Hubert. Mais de tous les convives, les plus satisfaits furent la dame et le gentleman pour lequel la soirée avait été combinée dès l'origine. Les sentiments qu'éprouvait M. Foxtrot pour la belle Mathilda n'avaient fait que s'accroître depuis qu'il avait vu que, pendant son absence, l'amour qu'il avait inspiré, loin d'avoir diminué, avait encore grandi, car même sur la jetée à Brighton, où ils avaient passé ces derniers moments si angoissés, elle ne lui avait pas laissé voir d'aussi grandes marques d'attachement que pendant qu'il avait osé effleurer le bout de son pied. Quant à Miss Mathilda, la prose est impuissante à rendre l'état de son âme. Subjuguée, transportée, en extase, c'est ainsi que se passa pour elle tout le cours du dîner. En somme, rien n'avait jamais mieux réussi que cette entrée en campagne des O'Donaghue à Londres. L'avenir s'ouvrait devant eux, teinté des plus riches couleurs et fertile en éventualités des plus agréables.